capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
La pendule de la plus rebelle des radios. Nous sommes jeudi 16 janvier 2020. Il est l'heure du Canu Info, comme toujours de la semaine. Et l'équipe du jeudi, c'est Delphine.
Bonsoir à toi, Laurent. Bonsoir à tous et à toutes.
Voilà, nous allons ouvrir. Alors, on va parler de plein de choses dans le Canu Info. C'est moi qui ai fait cette semaine. On va parler de la réforme des retraites et des mobilisations aujourd'hui. On va parler de Corsa Linea. On va parler du centre de déchets d'Ivry. On va parler un peu d'égalité, avec pas mal d'infos autour de l'égalité ou de l'inégalité, hommes-femmes entre autres, et puis hétéro, homo, etc. On parlera de l'Académie des Beaux-Arts, pour parler d'une dessinatrice BD, c'est intéressant, et de Catherine Meurice. Et puis on terminera par une bonne rubrique, nucléaire et énergie. Mais nous allons ouvrir cette émission en rendant hommage à quelqu'un qui était très proche de Radio Canu, certainement le plus grand spécialiste des bandes continues de Radio Canu que l'histoire de Radio Canu a connu, puisque c'est quelqu'un qui travaillait dans une imprimerie à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse, une imprimerie qui s'appelait MAB, c'est l'acronyme de Mon Artiste est un boucher, qui travaillait tous les jours en écoutant Radio Canu, tout le temps. Chaque fois qu'on allait le voir, on entendait essentiellement les bandes continues en journée, mais aussi les autres émissions. Et cette personne qui s'appelle Bruno a aussi imprimé pendant des années et des années tous les autocollants de Radio Canu, quelques affiches qu'on avait faites, et tous les autocollants à l'époque où les autocollants étaient faits localement et pas délocalisés comme le veut le monde moderne. Voilà, Bruno nous a quitté samedi. On est triste, bien évidemment. On pense encore et toujours à lui, et on pense à lui en faisant ce Canu Info, lui un des plus fidèles auditeurs de la radio.
Donc, en cette journée de 16 janvier, les luttes contre cette réforme des retraites dont nous ne voulons pas ont continué. Ouais. Elles ont continué hier, elles continueront demain, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu veux en dire?
Pas grand-chose, on sent la fatigue hein, dans les rangs des manifestants, en tout cas celles et ceux qui étaient dans les rues de Lyon aujourd'hui. Donc d'après la CGT, on était 16 000, donc on peut y tabler sur un peu moins. La Flic ID, 6 000, réellement on devait être 13, 14, 15 000 au maximum. En tout cas, c'était un beau cortège quand même, malgré tout, même s'il était deux fois moins imposant que le jeudi dernier, par exemple, est bien plus imposant que celui de mardi. Il y avait à peu près trois fois plus de personnes que mardi. Mais ça sent quand même le découragement hein, chez beaucoup de militants et de militantes. À Paris, c'était encore 250 000, ce qui est plutôt pas mal. Il y a eu des mobilisations un peu partout. On a toujours une grosse représentation de la CGT, une présence assez importante des cheminots, hein, parce que c'est eux qui sont porteurs de mouvement. Les profs disparaissent un petit peu de la lutte. On a l'impression le gouvernement a signé des accords. On va en parler tout de suite. On a perdu les avocats aussi, qui avait été très présent, alors il y en avait peut-être, hein, mais beaucoup moins présent que la fois d'avant, le jeudi d'avant, où là, ils avaient été symboliquement très très forts, mais depuis Macron et son gouvernement a lâché du mou, et donc ça a dû calmer les ardeurs de la mobilisation du côté des avocats. Donc voilà, bon, bien évidemment, traditionnellement, ça se termine par des jets de lacrymo, des petites choses un petit peu violentes. La police est tant familière hein, de ces violences policières, même si je n'ai pas eu écho de blessés ou de choses très graves, ça reste de toute façon une police de la répression. De toute façon, une police c'est de la répression, hein, ils sont pas là pour faire des câlins et c'est pas des travailleurs sociaux, hein, faut pas oublier ça. Donc voilà, une journée de mobilisation assez tranquille. On ne sait pas bien ce que ça va faire pour la suite. Ça semble compliqué aujourd'hui. Et du coup, je vais revenir un petit peu sur le scénario qu'avait écrit la CFDT avec le gouvernement. On en avait parlé une fois et on a franchi une étape supplémentaire qu'on avait annoncée. Alors, bien évidemment, en rationaliste comme nous sommes, nous n'avions pas de boule de cristal dans lequel nous avions lu l'avenir, mais nous avions rationnellement travailler sur les probabilités. Et effectivement, les probabilités se sont révélées relativement justes. On rappelle, hein, le dernier acte en date, cette reprise de la concertation par le traître secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui lance comme ça l'idée d'une conférence de financement sur les retraites. Pour parler, pour faire disparaître l'âge pivot. Hop, instantanément, le gouvernement répond, oh mais oui, on veut cette conférence. Et le gouvernement retire du texte provisoirement la notion d'âge pivot. Oh, quelque chose de... Voilà, c'est pas du tout écrit, non. Ça s'est fait par hasard, hein, que la demande de Laurent Berger correspondait exactement à ce que voulait le gouvernement. C'est bizarre quand même tout ça. Donc voilà, le 12 janvier, on pourrait l'appeler l'acte 3 ou 4, Édouard Philippe annonce dans un courrier à ce qu'on appelle les partenaires sociaux, le retrait donc provisoire de l'âge pivot, l'organisation de cette fameuse conférence de financement, idée sortie du chapeau de Laurent Berger et qui plaît tant, en prenant bien soin de fixer un cadre, c'est-à-dire en ne laissant aucune marge de manœuvre à la discussion. Du coup, quand on laisse aucune marge de manœuvre, si on était intelligent et pas un traître, comme aurait dû l'être Laurent Berger, on a dit, ben non, si vous retirez l'âge pivot, faut nous donner les moyens de négocier. Ben non, on ne donne pas les moyens de négocier, mais Laurent Berger accepte quand même. Donc la conférence de financement va se dérouler. Elle va se dérouler pendant le débat parlementaire sur cette loi scélérate, et ses travaux devront être terminés normalement avant l'adoption définitive du texte. Alors, ce qui va se passer, c'est si l'âge pivot de 64 ans pour une retraite complète. Vous savez, c'est l'âge à lequel on a droit à partir avec 100% de sa retraite. Est suspendu. Donc les partenaires sociaux devront trouver, imaginer d'autres propositions pour aboutir au même résultat financier, sans toucher donc la baisse, sans trop toucher la baisse des pensions, et surtout ne pas augmenter le coût du travail, c'est-à-dire les cotisations sociales, notamment patronale, parce que c'est le MEDEF qui est à l'embuscade, dirons-nous. Donc au final, c'est les salariés, hein, qui paieront. Si jamais un accord est trouvé, c'est les salariés qui paieront, comme la CRDS ou des choses comme ça. Enfin, avec soit c'est une taxe, soit avec une augmentation, non pas de la durée du travail, et qui sera remplacée par l'âge pivot, c'est-à-dire il faudra une durée de cotisation de tant d'années, ce qui repoussera mécaniquement au-dessus de 64 ans. Le terme âge pivot n'apparaîtra pas, Laurent Berger pourra faire semblant d'être content, et tous les salariés se feront donc avoir. Et l'acte 5, qui est presque l'acte final de tout ça, le pouvoir reprendra la main après cette conférence et validera soit à travers une loi, soit à travers des ordonnances, s'il y a un accord conclu entre les partenaires sociaux, vraisemblablement il n'y en aura pas, et dans ces cas-là, l'âge pivot reviendra soit sous la forme directe d'âge pivot, soit sous la forme d'augmentation de la durée du temps de travail, enfin pas du temps de travail hebdomadaire, mais de cotisation. Donc voilà, bref, on s'est fait avoir, et dans les images qui traînent, les gens qui reprennent, effectivement, il y a un truc qui revient, c'est si on rétablissait l'esclavage, nous, la CGT, les gens comme ça, se battraient contre l'esclavage, que ferait Laurent Berger d'après vous? Lui, il négocierait au mieux le poids des chaînes qui nous lient à nos maîtres, soit la couleur des chaînes, parce qu'on en est quasiment là aujourd'hui au niveau de la CFDT. On notera d'ailleurs quelques départs. Hein, des gens ont déchiré leurs cartes, ont fait plein de choses pour montrer symboliquement. On se rappelle que la dernière grosse lutte des retraites dans la fonction publique, notamment en 2010, il y avait eu des départs de la CFDT. Dans les conflits précédents, sous Nicole Notta notamment, la CFDT avait perdu aussi des adhérents. Le truc, c'est que la CFDT est toujours le premier syndicat de France, entre autres parce que peut-être que quasiment personne n'est syndiqué, et que il reste que les combattants et ceux que ramène la CFDT. D'ailleurs, dans ces enjeux de cette grève, de cette mobilisation, la CGT joue gros, hein, quand même, hein, sur son existence, parce que la CFDT veut devenir un syndicat, comme dans certains pays du nord de l'Europe, comme en Allemagne, non pas un syndicat de lutte, mais un syndicat de négociation avec l'État et surtout le patronat, pour devenir un syndicat totalement de service. Et là, on n'a plus de notion de syndicat tel qu'on l'entend en France, un syndicat de lutte, et c'est ce que veut la CFDT, ce qui est en train d'arriver à faire à la CFDT. Alors, Toujours dans le cadre de cette réforme, les flics ont obtenu des trucs. Alors les militaires ont obtenu, avant que le projet de loi sorte, ils sont pas dans la réforme, les flics ont obtenu plein de choses, les pompiers, les danseurs de l'Opéra de Paris ont obtenu pour, pas pour ceux qui sont là actuellement, qui eux sont sauvegardés, bah si pour eux ils sont sauvegardés, les avocats ont obtenu un truc, ils auraient le droit de garder une caisse complémentaire, etc. Il fallait donner des trucs aux profs.
Hein. Alors t'as oublié juste les routiers.
Ah oui, non, mais j'ai pas vu tout le monde. En fait,
sur l'aérien, enfin les contrôleurs aériens.
D'ailleurs, il a inventé une nouvelle définition d'une mot universaliste l'autre jour sur. Il a expliqué ce que c'était pour lui le mot universaliste. C'est pas quelque chose qui concerne tout le monde, tous et toutes. C'est bizarre. Il faut qu'il réécrive le dictionnaire suite à la manipulation de la langue française de la part de Monsieur Macron. Donc là, les profs, maintenant, on attaque. Blanquer est venu au créneau. Il a dit, je balance 10 milliards. Bon, on y a cru. On s'est dit, 10 milliards en un an, ça va nous faire 100, 150 euros d'augmentation. On est content. En fait, non, pas du tout. C'est 10 milliards sur moult années. Hein, peut-être 15, un truc comme ça. 500 millions d'euros l'année prochaine, en 2021. Du coup, la FSU a dit gras, c'était une petite avancée, enfin plein d'autres syndicats comme ça, le SNES aussi, tout. Donc on sent que la mobilisation des profs a baissé aujourd'hui, et on en connaît la raison, c'est que Blanquer, il obéit aux ordres, hein, il a dit on va rehausser les salaires. Alors ces 500 millions, on est à peu près sûr de les avoir dans la fonction publique de l'enseignement, puisque ça va être voté au budget 2021, et c'est ce gouvernement qui au budget... encore en 2021. Mais en fait, le truc, c'est la programmation de 10 milliards sur 15 ans. Ils l'annoncent comme si c'était écrit et gravé dans la pierre. Mais en fait, c'est pas vrai du tout, puisqu'il suffit que le gouvernement suivant l'annule pour que ça ne le soit plus. Donc en fait, c'est juste des promesses qui engagent le gouvernement suivant et pas eux. Donc c'est un petit peu facile. Au pire, on aura une augmentation d'à peu près 50, 70 euros, peut-être 90 pour les plus méritants, car... Et ce qui n'est pas dit, et ce qui est sous-entendu par les inspecteurs, par des gens dans l'éducation nationale un petit peu haut placés, c'est qu'il va falloir les mériter. Et qu'il va y avoir des sortes d'augmentations liées au mérite. Toi, prof, tu t'investis pour tel truc, bien. Toi, tu es prêt à partir, à bouger dans toute la France si jamais on te le demande. Tac, tu auras telle prime. Voilà. Et ça va se finir comme ça. Les augmentations vont être très inégales. On va parler de l'inégalité tout à l'heure et de l'égalité. En fait, ce gouvernement, il va individualiser totalement les salaires des profs et rendre créer des disparités. Aujourd'hui, il y avait très peu de disparités entre les profs, entre les hommes, entre les femmes, entre, voilà, parce que c'est une grille, c'est mécanique, enfin, même s'il y a quelques petites aléas qui font qu'on monte plus ou moins vite dans la grille, ça reste un peu plus égalitaire que dans une entreprise. Et là, ce que veut le gouvernement, c'est individualiser totalement les salaires. Et ben voilà, c'est le plus lèche-botte qui gagnera. On a perdu toute la beauté du métier d'enseignant, une partie. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que cette année, on bat le record d'absence de candidats pour les concours.
Oui, pareil, ouais.
Ben, salaire pourri, conditions de travail dégradées. Si vous êtes dans la fonction publique, je vous rappelle, vous êtes nommé à l'autre bout du monde, en banlieue parisienne ou loin de là où vous avez envie de vivre. Ben voilà, il y a plein de choses négatives dans le métier qui pouvaient être compensées par la motivation, par la reconnaissance de la société, des ministres, tout ça. Tout a disparu aujourd'hui, c'est fini, et les salaires sont minables. Hein. Je vous rappelle, le point d'indice, il est bloqué depuis Sarkozy, et comme on a à peu près 1% par an d'augmentation de l'inflation, chaque année, les profs perdent environ 1%, donc je pense qu'on est à moins 20% depuis quelques années. Donc voilà, c'est juste un métier qui attire plus et qui, je pense, a raison, parce que voilà, c'est de plus en plus désagréable de faire ce métier-là. Voilà, j'ai fini mon petit truc sur la mobilisation, on pourrait en parler des heures, mais voilà, je suis assez pessimiste sur la suite, mais j'aimerais me tromper, puisque comme je le rappelle, j'ai pas de boule de cristal qui révèle des trucs, puisque ça n'existe pas, bien évidemment. Donc nous allons voir ce qui va se passer. En tout cas, il y en a qui ont envie de continuer de se mobiliser, et ben tant mieux.
Alors moi, tu vois, j'ai choisi cette semaine deux exemples où il se passe des choses. Ouais. On va parler de ce qui se passe à Marseille. À Marseille, il y a une corporation que nous, à Lyon, ici, on ne connaît pas. C'est vrai, quand il y a des grosses grèves comme ça, on pense toujours à Faisin. Mais à Marseille, là-bas, il y a les dockers.
Ouais.
Et ça, c'est un vivier de syndicalistes cégétistes, entre autres.
Qui, jusqu'à maintenant, pas beaucoup bloqué.
Et ben là, ils
mais
bloquent,
ça y est.
Ils bloquent. Ouais. Donc, quand un docker est accompagné d'un deuxième docker, ça commence à faire.
Deux dockers
qui.
Deux armoires à glace, là, qui viennent bloquer.
Voilà, bon, là, on est un peu dans la caricature, mais en tout cas, c'est vrai que, voilà, vite, ça peut quand même prendre et faire de l'effet. Ça touche Corsica Linea. Qui est donc l'ancienne SNCM, donc la compagnie maritime, qui a annoncé mardi que trois de ses navires ne circuleraient pas le mercredi, jeudi et donc jusqu'à vendredi demain. C'est-à-dire que les traversées sont annulées. Alors, ce qu'on apprend, c'est que c'est pas tout à fait que les luttes sur les réformes des retraites ou le ras-le-bol de certains travailleurs et travailleuses de tout ce qu'on se prend, que ce soit évidemment le chômage, tous les cadeaux patronat, toutes ces choses-là, que quand on analyse finalement, il se passe exactement ce qui s'est passé jusqu'à présent avec les autres gouvernements, mais bon, là c'est vrai qu'on en prend peut-être un peu encore dans la gueule, donc il y a des gens que ça énerve. À Marseille, en fait, il y a donc la grève sur le port, mais il y a aussi des marins grévistes de la Méridionale, qui est une compagnie maritime. Alors là, on se retrouve confronté à un double effet qui se coule, vous voyez, pour ceux qui sont les plus anciens d'entre nous et qui savent ce que c'est qu'un qui se coule. C'est-à-dire que, à la fois, il y a le blocage sur le port, le merdier, dû à la lutte sur la réforme des retraites. Et puis, en même temps, on a des marins qui sont grévistes sur les compagnies maritimes. Ce qui se passe là-bas, dans le sud, c'est que il y a des grévistes qui souhaitent que Corsica, Linea et la Méridionale. Je vous rappelle, les compagnies maritimes, ça va toujours très très bien là-bas. Il y en a qui ont été remodelées, rebidulées, remachin, et pourtant derrière, la réussite économique n'est toujours pas là. Et donc là, il y a une volonté de certains grévistes de faire en sorte que ces deux compagnies puissent être ensemble pour avoir quelque chose de plus fort, plus gros, parce que bon, la concurrence, n'est pas très capitaliste, ce que je vais dire, mais la concurrence fait du mal à des travailleurs et des travailleuses, parce que quand tu pousses les prix, quand tu pousses les conditions de travail, quand tu pousses tout, finalement, des fois, il faut mieux avoir une seule et unique structure, ça serait plus simple, et puis certainement plus intéressant, évidemment, pour les travailleurs et travailleuses. Alors évidemment, derrière, les patronats vont dire que, du coup, il va y avoir des doublons, il va falloir licencier, on est dans une espèce de cercle vicieux et... Voilà, on comprend après que certains patrons se font déchirer la chemise. Oui, on se souvient de ça aussi, dans un autre secteur du transport. Ça bouge un petit peu là-bas. Et puis, l'autre chose que j'avais retenue, c'est pour dire qu'il se passe quand même plein de choses et qu'il y a des endroits où il y a des appels à blocage. Et donc, c'est le centre de déchets d'Ivry-sur-Seine qui était appelé à être bloqué. Mardi matin, il y avait du monde. C'était en partie à l'appel de la CGT. Bon, ça a été évacué assez vite par la police parce qu'on sait que des déchets qui traînent, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, des déchets partout. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on démantèle les services publics sur certains déchets parce qu'on se dit toujours dans le privé, les travailleurs et les travailleuses ne font pas grève, ouais, se rebellent un peu moins.
Ils ont un peu plus coincé.
Oui, mais parce qu'à Lyon aussi, à la métropole, on a quand même aussi des groupes dans le public qui sont assez actifs quand même sur certains secteurs liés aux déchets. Donc, quand on perd ces gens-là, on sait qu'on perd aussi une force de mobilisation et une force de lutte assez importante. Donc c'est ce type effectivement d'événement. Mais sur Lyon, il s'est passé plein de choses. Il y a eu des blocages le matin, assez vite aussi poussés par la police. Mais il y a quand même des gens qui se lèvent très tôt le matin pour être sur 4, 5 ou 6 heures sur des piquets de grève, sur des blocages. Donc voilà, il y a une mobilisation qui existe et qui est encore là. Et c'était pour amener une touche positive à ton désespoir.
Oui, et on va parler d'égalité maintenant, et je vais commencer par vous parler de François-Noël Buffet. Alors, ça m'avait pas percuté, son nom, je connaissais pas bien, pourtant, il se présente pour la présidence de la métropole de Lyon, là où on est, là où est Radio Canu. Il est membre des Républicains, donc il est plutôt cassé à droite, le monsieur. Et alors, c'est sorti d'une blague, parce que c'était pas trop remonté dans la presse, mais lors de la conférence de presse, une conférence de presse du candidat d'Europe Écologie Les Verts, là, Bruno Bernard, qui arrive à égalité en ce moment dans les sondages avec Gérard Collomb. Et il a fait une blague, il a dit, vous savez quel est le féminin de candidat pour François-Noël Buffet? Eh ben, c'est pas candidate, c'est suppléante, parce que sur la liste de monsieur François-Noël Buffet, il n'y a que des hommes en tête de liste, 14 hommes, et les femmes sont reléguées au rôle de suppléante. Ça, c'est la classe internationale, ce monsieur. Alors, forcément, il a répondu, ça lui a pas plu, il a dit que il assumait ce choix parce qu'il ne voulait pas tomber dans le marketing. Alors pour lui, cet imbécile de droite, l'égalité homme-femme, c'est pas un combat, c'est pas un truc qu'on veut, c'est juste du marketing. Bon, c'est triste, c'est à pleurer, mais c'est la droite conservatrice, pas de grande surprise non plus. Faut savoir que la parité a beau être inscrite dans la loi française depuis le 6 juin 2000, on en est loin. Sur la métropole de Lyon, il y a à peu près 20% des communes dont le maire est une mère. Ça fait 20% de mémoire, si je me rappelle de mes maths, on est assez loin de la moitié, qui doit être 50% quand même. Il nous en manque un petit peu, mais ça ne gêne pas François-Noël Buffet. Voilà. De toute façon, qu'il y a la traîne dans les sondages et on lui souhaite de faire le moins possible et qu'aucune femme ne vote pour lui. Et on va continuer dans les notions d'égalité ou d'inégalité. Une décision, je ne sais pas si elle est surprenante, mais qui est en avance par rapport aux lois françaises, ça nous vient de la Cour de cassation. En fait, deux hommes, deux hommes qui sont en couple, avaient eu recours à une GPA, une gestation pour autrui à l'étranger, donc à une mère porteuse pour porter leur enfant, d'un des deux génétiquement, puisqu'il y en a un des deux qui a amené le sperme. Donc, ils ont voulu faire reconnaître tous les deux comme étant reconnus tous les deux comme parents. Et la Cour de cassation, ça date d'il y a une dizaine de jours. Hein, la Cour de cassation a reconnu que les deux, pas seulement le père biologique, les deux étaient reconnus en France comme parents de l'enfant né de cette GPA, bien que la GPA, on rappelle, soit interdite en France. Alors on avait déjà eu ce cas pour des couples de deux femmes. On n'avait pas eu encore le cas pour des couples d'hommes, donc c'est fait. Ça, l'idée, c'est que ça fasse jurisprudence hein, pour que ça continue d'exister tant qu'il n'y aura pas de loi qui l'interdit totalement. Parce qu'il y a, il y a un vide juridique hein, sur la GPA en France. C'est interdit en France, mais quand quelqu'un revient de l'étranger avec sa GPA, ils sont obligés de le reconnaître. Ça fait partie des avantages. Il y a d'autres pays comme ça qui ont des trucs interdits chez eux et quand les gens le font à l'extérieur, ils peuvent revenir et le faire valider. Ça permet de contourner les interdits, les limitations à la liberté qu'on peut avoir dans certains pays. Donc voilà, c'est une petite nouvelle, comme ça pour dire que des fois les cours de cassation, la justice va dans le sens de l'égalité, c'est pas toujours le cas, bien évidemment, mais là, c'était à signaler. Et alors, un truc incroyable maintenant, sur l'égalité. Le ministre de l'Environnement, Shinjiro Koizumi, donc le ministre de l'Environnement du Japon, vous avez reconnu un nom en consonance japonaise, a décidé, c'est une révolution, de prendre un congé paternité. Alors chez nous, c'est pas mal répandu quand même pour les hommes. Mais alors au Japon, c'est assez inimaginable, déjà pour les hommes. Mais alors pour un homme avec des responsabilités politiques, c'est vraiment plus qu'une révolution. Il a 38 ans, il est fils d'un ancien ministre hein, qui avait été ministre entre 2001 et 2006. Et il a annoncé donc hier qu'il prenait ses 14 jours de congé paternité.
Ouh, 14 jours.
Bah oui, dont il a droit dans les 3 mois suivant la naissance de son enfant. C'est quelqu'un qui est très coté politiquement au Japon. Hein, il y a même... il est bien pressenti pour être un prochain Premier ministre. Donc c'est plutôt pas mal. Alors il faut savoir hein, que la loi japonaise accorde bien évidemment aussi aux hommes jusqu'à une année de congé paternité, comme aux femmes. Alors si on regarde les chiffres donnés par le ministère de la Santé japonais, seuls 6% des pères prennent ce congé paternité et 82% des mères prennent leur congé maternité. Si vous vous additionnez 82 plus 6, ça fait 88, c'est-à-dire qu'il y a 12% des gens qui prennent rien au Japon, mais ça, bon, c'est un problème. On rappelle que les disparités au Japon sont des disparités liées à une pression culturelle très forte, à notamment la dévotion des salariés à leur employeur. Ça se fait souvent, alors pour les hommes, au détriment de leur vie de famille, puisque voilà, ils bossent jusqu'à point d'heure. Au bout d'un moment, ils n'ont plus de vie de famille du tout. La femme fait tout. Et l'autre impact pour les femmes, c'est qu'elles peuvent pas travailler, elles peuvent pas avoir un vrai travail correct. C'est très compliqué pour arriver à avoir une espèce d'égalité, même dans le travail, pour les femmes. Tout ça pourrait peut-être changer tout doucement. tout doucement. Il l'a dit d'ailleurs, Monsieur Koizumi, il a dit, jamais le congé paternité deviendra la norme. Alors on se dit, merde, c'est mal parti. Et il continue, à défaut d'un changement, non seulement de système, mais aussi de mentalité. Et c'est son but, en fait, avec cette prise de congé paternité. Il a pris que 14 jours, c'est pas énorme par rapport à ce que propose la loi japonaise. Mais lui, il dit, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut faire changer les mentalités au Japon pour qu'il y ait un peu plus d'égalité. Le Japon part de très, 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 très loin. Il y a vraiment de très grosses inégalités. Je continue. Oui, tu
peux placer mon sujet si tu veux. Tu
avais un sujet à placer.
Ouais.
Vas-y.
Ça se passe en Argentine. On a appris que vous savez qu'il y a un nouveau président. Alberto Fernandez, je vous donne son nom, qui a participé la semaine dernière à une obligation qui est apparue en 2018. C'est la loi Micaela. Micaela, c'est une étudiante qui a été agressée, enlevée, violée et assassinée en 2017. Cette loi porte donc son nom. C'est une loi qui oblige les fonctionnaires, les élus, à suivre une formation sur les questions du genre et sur les problématiques liées aux violences faites aux femmes, aux féminicides. Donc, c'est quand même assez important. On a ce président qui médiatise cette affaire, va donc faire cette rencontre, cette formation, ce stage, je sais pas comment vraiment on pourrait définir ça. C'est plutôt bien parce que on est dans un pays où, je vous rappelle, il y a un petit problème sur le droit à l'avortement, et ce nouveau président avait décidé de porter une cravate verte, ce qui fait quand même pas tous les jours, parce que c'est la couleur des militantes en Argentine pour le droit à l'avortement. Il a d'ailleurs expliqué qu'il voulait changer la légalisation, la loi sur l'avortement, amener un projet de légalisation. Il y avait déjà eu des tentatives, mais le Sénat avait repoussé le texte adopté par les députés en Argentine. Donc, on se retrouve face à ce président-là, et qui, en plus, médiatise cette affaire. Donc, on peut se dire, c'est vachement bien. Que fait M. Macron? Que fait Gérard Collomb?
Que fait Gégé?
Voilà. Bon, après, on va dire aussi un petit peu la réalité. C'est parce que quand on va un peu lire les papiers qui ont été faits sur tout ça, on s'aperçoit que il y a une enquête qui a été faite, et sur les fonctionnaires du public, il n'y a que 28% de ces fonctionnaires qui, pour l'instant, ont fait cette formation obligatoire, rappelons-le. Et puis qu'il y en a quand même 15% qui sont même pas au courant. Donc c'est dire qu'il y a quand même du boulot. Et le reproche le plus important, qu'il n'y a pas d'argent. Donc c'est dire qu'à un moment, c'est bien, il y a cette obligation, mais en même temps, il n'y a pas d'argent derrière pour appliquer cette loi Micaela réellement. Et puis d'une manière générale, on manque d'argent pour éviter ces violences faites aux femmes, éviter les violences et les discriminations LGBT. Voilà. Donc, bon, il faut, voilà, il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un président qui fait ça, le médiatise, le fait savoir, quitte à se mettre une partie de l'Argentine conservatrice sur le dos, mais en même temps il y a une réalité de terrain qui est encore bien loin d'être une grande réussite.
Alors on va terminer cette rubrique sur l'égalité avec une info sur le Vatican, puisque le pape François a nommé madame Francesca Di Giovanni, donc une laïque de 66 ans, sous-secrétaire chargée du multilatéralisme à la section des relations avec les États. C'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères pour ce pays qui est à la fois un pays et le centre de la religion chrétienne. C'est la première femme à atteindre un tel niveau de responsabilité au Vatican. Donc c'est plutôt novateur. Alors au Vatican, on est loin de l'égalité homme-femme en nombre, en qualité. Les prêtres n'ont pas le droit d'être des femmes, enfin, on le sait très bien. Ils sont à des millions d'années d'une quelconque égalité. Mais c'est un progrès, le pape l'avait dit plusieurs fois, qu'il voulait remettre donner de la place aux femmes, notamment dans les instances de décision. Donc c'est un pape plutôt progressiste, entre guillemets, comme peut l'être un religieux. C'est-à-dire, pour nous, c'est un mec d'extrême droite quand même, dans les idées, mais pour un religieux moyen, il est qualifié de progressiste, notamment sur la question du rôle des laïcs dans l'Église catholique, et aussi du rôle des femmes. Alors là, elle cumule les deux, bah, façon, elle n'a pas le choix, puisque c'est une femme, elle peut être que laïque dans l'Église catholique. Donc voilà, c'est, symboliquement, ça, c'est plutôt un geste de progrès, dirons-nous, dans cette Église catholique réactionnaire. Mais, au final, ça change pas grand-chose. Notamment, ils n'ont aucune envie d'enlever les textes inégaux, réactionnaires qu'ils ont. Du coup, je me suis amusé. J'aime bien la première épître aux Corinthiens. Alors, il y a d'autres parties du Nouveau Testament, c'est-à-dire la Bible, qui sont horriblement discriminantes pour les femmes. Mais j'ai relu cet après-midi une partie comme ça pour détester l'Église catholique une fois de plus. Et je vais vous lire une toute petite partie de la première épître aux Corinthiens. C'est la fin, je crois, de l'épître aux Corinthiens. Il dit « Comme cela a eu lieu dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car elles n'ont pas mission de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans une assemblée. » Bon, il a beau nommer des femmes à quelques postes, il serait bien qu'ils rayent des trucs dans ces textes religieux pourris là, parce que on rappelle, en tant que laïcs, nous sommes sous les coups de la loi de la République. On a tout fait pour virer les trucs misogynes, racistes, un peu pourris des textes de la République. On est en droit d'espérer que le pape fasse pareil dans ses textes religieux et d'enlever tous les côtés homophobes, inégalitaires, etc. Mais nous n'avons aucun espoir, puisque les religions resteront les choses qu'elles sont, c'est-à-dire des choses méprisables. Voilà, c'est à toi, puisque tu as des infos un peu sympas, notamment... Je sais pas de qui c'est la dessinatrice, mais
Catherine Maurice qui a fait les dessins pour Charlie.
Ah oui, Charlie. Ah, mais celle qui est nommée. Ah oui.
Voilà, bah oui, mais bien sûr que tu sais qui c'est.
Ah oui, mais Catherine Maurice, bien sûr.
Bien sûr. Alors, moi je prépare toutes les intros et tout. Puis
en fait, elle signe pas Catherine Maurice, elle cite Kat.
Ouais, mais c'est Catherine Maurice. Elle a écrit un certain nombre d'ouvrages, au-delà de Charlie Hebdo, bien évidemment. Alors, c'est la première fois qu'on a une dessinatrice de bande dessinée qui est nommée à l'Académie des Beaux-Arts. Alors, elle est nommée dans la section peinture. Je vous rappelle que l'Académie des Beaux-Arts, c'est un machin qui date du 19e siècle.
Ouais, c'est un truc de vieux.
Oh, bah, Catherine Maurice, elle est pas vieille.
Non, non, mais c'est l'institution.
Ah, oui.
L'image que ça renvoie, bien évidemment.
L'idée, c'est de à la fois le rayonner, sensibiliser, c'est tout ça, hein, l'Académie des Beaux-Arts. Et donc, il y a plusieurs sections. T'as, alors, je vous ai dit quoi?
Musique, il doit y avoir.
Peinture, sculpture, architecture, gravure, composition musicale. Et puis, il y a la photographie qui est rentrée, je crois que c'était en 2005, quelque chose comme ça. Et c'est récent. Hein.
Est-ce qu'il y a déjà eu un dessinateur de BD, en fait? Parce que la BD, c'est un art mineur pour ces gens.
Ouais, c'est assez. Voilà. Alors là, c'est une double truc. C'est déjà, on parle de BD, puis on parle d'une femme aussi. Parce que j'ai été chercher.
Ah, donc, c'est la première. C'est le représentant de la BD, en plus.
Alors, ce que moi, j'en ai compris.
Ah oui, elle a une.
Et puis, c'est surtout que on a une femme parce qu'en fait depuis 2000, c'est pas si vieux, c'est en 2020, ça fait donc 20 ans, ce qui est quand même aussi pas mal, hein, parce qu'on a vieilli entre temps, il y a eu 8 femmes nommées sur des sièges sur les différentes sections.
Et sur combien, en fait, du coup?
Alors, depuis le 19e siècle, je te laisse calculer le nombre de sièges. Alors, en fait, c'est un système tournant, c'est-à-dire que c'est pas une assemblée qui est élue d'un coup, il y a un siège qui...
C'est comme l'Académie française, il faut mourir ou pas, ou en partir.
Ouais, c'est
pour
pas tout à fait ça, mais enfin, voilà, c'est t'es élu à un moment, donc elle a été élue ce mercredi, a priori au premier tour, hein, voilà. Oui. C'était Arnaud Dautriff qui était là à sa place avant. Donc à chaque fois, il y a plusieurs membres dans des sections, et puis il y a des sections qui sont plus mis en avant, on va dire majeures, et puis il y a des sections plus mineures, hein, aussi plus récentes. Donc c'est quelque chose d'intéressant, non pas parce que l'Académie des Beaux-Arts vous pouvez très bien n'avoir rien à faire, ouais, mais voilà, c'est-à-dire voir apparaître à la fois une femme, la BD. Alors à côté de ça, j'ai été chercher aussi, est-ce qu'il y a eu des présidentes de l'Académie des Beaux-Arts femmes? Non.
Ouais, c'est pas
je crois même que
c'est
vous savez, t'as des membres, alors c'est le principe du membre honoraire. Je crois que j'ai pas trouvé non plus de femmes dedans. Hein. C'est ceux qu'on appelle des secrétaires perpétuels.
Oui, c'est ça.
Voilà. J'étais en train de chercher le mot. Voilà. Donc c'est quand même encore des secteurs où dans l'art et la culture, on a.
Pourtant, dans l'art et la culture, il y a beaucoup de femmes dans le monde moderne.
Pas vrai. Mais même dans l'ancien temps.
Ouais, non, mais je veux dire,
non, mais
elles sont
même
plus visibles,
non, mais
même dans l'ancien temps, dans les anciens peintres, par exemple dans la peinture.
Tu veux dire même.
Ouais, mais avant le milieu du XXe siècle, les peintres c'était officiellement que des hommes. Hein. On avait très peu d'artistes féminins qui pouvaient s'exprimer et pouvaient devenir célèbres.
En tout cas, maintenant,
là maintenant, c'est quand même c'est voilà, temps que ça arrive du coup jusqu'aux instances.
Et que y a du travail à faire. Hein. Y a bien du progrès là-dessus. Oui, alors elle a été Charlie Hebdo, mais j'aurais pu dire aussi qu'elle a été à Libération, à Télérama.
Oui.
Elle a été pas mal aussi connue pour ses ouvrages jeunesse. Et puis, voilà, elle a aussi un trait des ouvrages à elle. Elle n'a pas évidemment dessiné que dans des journaux. Elle a pas mal de bandes dessinées. Voilà, c'est souvent avec beaucoup d'humour. Et puis, elle a été à la Villa Médicis, donc elle a effectivement aussi raconté tout ça. Voilà, donc j'ai juste envie de vous dire ça.
Hop,
on passe à autre chose.
Eh ben, on va faire la dernière rubrique de ce Canu Info et on va parler un peu d'énergie et de nucléaire. Donc on a une petite info là qui est sortie sur Buget qui traînait pas mal voilà, on en discutait en dehors des trucs officiels et puis là on commence à en parler de manière un petit peu plus officielle. Donc la centrale du Buget, je vous rappelle, c'est celle qui, quand elle pètera, Lyon, ça va être la panique puisqu'on est à 30 km à vol d'oiseau de cette horreur. La centrale Buget, qui est une très vieille centrale, hein, construite en 72 je crois, enfin mise en route en 72, mais à l'époque on construisait assez vite les centrales nucléaires, beaucoup plus que pour le PR, même s'il fallait quand même plusieurs années. La centrale subit sa quatrième et normalement dernière visite décennale qui s'étale cette année, donc qui a commencé cette année et qui devrait aller jusqu'à 2023. Ensuite, si cette visite décennale est positive, malheureusement elles le sont souvent, la centrale est repartie pour une dizaine d'années. Et après, 10-15 ans, enfin voilà, ça va dépendre. Et après, et c'est la question qui se pose en ce moment, c'est que va-t-il se passer après ? Puisque les bruits courent EDF aimerait bien installer peut-être des nouveaux EPR en France. On rappelle, c'est 6 hein, qu'ils ont demandé au gouvernement de valider. 6 réacteurs nucléaires, c'est en fait 3 double cœurs hein, quelque part, parce qu'ils les construisent en deux à la fois. Ils en font, bah voilà, centrale Buget, il y a plusieurs centrales nucléaires, plusieurs cœurs hein, qui fonctionnent sur la centrale. Donc l'idée, c'est d'en construire voilà des paires comme ça à 3 endroits en France. Et donc EDF a demandé au gouvernement. Le gouvernement s'est pas encore exprimé. Ils hésitent un peu. Enfin, ils font semblant d'hésiter en tout cas. Mais les régions prennent les devants pour aller voir EDF en disant nous on en veut nos centrales nucléaires. Donc le responsable de la région pour l'Ain, puisque c'est dans l'Ain le Buget, c'est monsieur Jean Deguerry, qui a priori plutôt du côté de la droite conservatrice, puisqu'il est membre des Républicains. Et lui, il a levé les deux mains, il a dit ouais, bah moi le gouvernement, le département de l'Ain, on est pour qu'on installe deux nouvelles centrales nucléaires au Buget. Et il dit c'est pour sauver les emplois directs, les 2000 emplois qui sont concernés. Qui veut que ces emplois restent dans le nucléaire et pas basculent dans la transition écologique. C'est de ça dont il est question. Donc voilà, ça inquiète les assos locales, le sortir du nucléaire Buget notamment. Puis ça inquiète les Suisses qui sont à 60 km à vol d'oiseau pour Genève de la centrale nucléaire. Ça inquiète les Lyonnais et les Lyonnaises, hein, parce que bon, on a 30 bornes de cette marmite qui peut exploser à tout moment. Donc voilà, c'est pas un truc rassurant, parce qu'on pourrait avoir, en tout cas les élus, le président de la région de l'Ain est très fort pour défendre le nucléaire dans sa région, donc c'est un truc un peu triste. Mais ce n'est rien n'est fait encore pour l'instant, en tout cas officiellement. Et puis la mauvaise nouvelle du jour, c'est arrivé hier, mais c'est aujourd'hui que je l'ai eu. Il y a quelques temps, il y a eu un deuxième procès peut-être, je ne sais plus où on en est. sur Greenpeace, qui s'était incrusté, dirons-nous, dans la centrale nucléaire de Cattenom, c'est en Moselle. C'est pas la première fois, ils avaient déjà fait plusieurs fois ça, pour démontrer qu'une centrale nucléaire, c'est un truc très dangereux, ça on le sait déjà, mais que potentiellement, des gens peuvent rentrer dedans et faire des choses encore plus dangereuses sur la centrale nucléaire. Donc pour démontrer ces failles de sécurité, pour les dénoncer, quand ils font des communiqués de presse, tout le monde s'en fout. Donc qu'est-ce qu'ils font, Greenpeace? Ils envoient des mecs qui rentrent dans la centrale pour montrer que tout le monde peut rentrer dans une centrale nucléaire. Et chaque fois, ils y arrivent, hein, que ce soit par ULM, par différents moyens, ils rentrent dans la centrale. Alors bien sûr, ils font rien, ils sortent une banderole, ils montrent qu'on, voilà, on est rentré, votre truc, c'est du gruyère. Et là, il y a eu donc un nouveau procès dont le rendu était hier. Donc ça date d'octobre de 1917, hein, la rentrée dans cette centrale de Moselle. Et ils ont quand même bien pris dans la figure les militants et les militantes, puisque ils ont pris 180 jours d'amende, s'échelonnant de 4 à 11 euros. Alors si vous calculez, ça fait pour la plus basse 720 euros d'amende, pour la plus haute 1980 euros d'amende pour les militants et les militantes arrêtés. Alors ça casse le jugement du tribunal correctionnel de Thionville qui en première instance avait prononcé contre ces militants des peines de prison fermes et pour certains avec sursis, donc ça allait encore plus loin, c'était horrible. Donc là c'est plutôt un peu plus léger, mais ça reste quand même très fort au niveau des amendes financières. Alors le magistrat a qualifié les peines d'emprisonnement de contre-productives et il a préféré mettre des jours amende. Donc c'est ce qui est entendu. Et puis, mais ça va encore plus loin. Donc ils sont six prévenus en fait, six militants, six militantes. Mais Yannick Rousselet, le directeur de Greenpeace France, qui est soupçonné de complicité en tant que directeur de Greenpeace. Alors lui, il a eu une peine alourdie sur ce nouveau procès, puisqu'il a 270 jours amende à 10 euros, ça fait 2700 euros d'amende. Donc c'est pas mal. Il est condamné, lui, perso, en tant que directeur de Greenpeace. Ça, c'est relativement nouveau quand même, pour la lutte, en tout cas, antinucléaire. Et il est directeur, il y a le directeur général de Greenpeace, qui est Jean-François Julliard. Alors lui, c'est pareil. Greenpeace a été taxé très très fortement, puisque il doit verser à EDF 216 806 euros d'amende. C'est énorme.
On sait que la taxe financière est un moyen de faire tomber
les ONG.
Les organisations, ouais. Et les militants.
Quoi. Et les militants. Alors 216 000 euros. Hein. Et 50 000 euros en plus pour préjudice moral. Ils ont un préjudice moral, EDF. Parce que nous, on n'a pas de préjudice moral quand on nous annonce tous les incidents, tous les accidents dans les centrales nucléaires et qu'on a peur que ça pète. Pas du tout, on n'est pas angoissé quand on habite autour de la centrale. Là, le préjudice moral, il n'existe pas pour ceux qui vivent l'angoisse tous les jours à côté de ces marmites qui peuvent exploser. Par contre, quand on rentre dans une centrale et qu'on montre à EDF qu'ils ne savent pas faire leur boulot au niveau de la sécurité, ah là, c'est un préjudice moral. Donc c'est énorme, hein. Et en plus, ils ont pris une peine d'amende de 25 000 euros, plus 5 000 de plus que les réquisitions. C'est énorme. Les juges refutent notamment le caractère imminent du danger. En fait, Greenpeace, il dit, n'importe qui peut rentrer dedans, et ça, c'est donc un danger imminent. Ils disent non, c'est pas un danger imminent, en fait, les gens rentrent pas jusqu'à maintenant dans les centrales nucléaires. Ils ont toujours eu du bol hein, dans les centrales nucléaires, qu'il n'y ait pas de méchants terroristes qui rentrent faire sauter le truc. Ils ont dit, mais vous donnez le mauvais exemple et vous risquez de donner des idées aux autres. Ça, c'est fort quand même. Tu dénonces des failles de sécurité et quand tu les dénonces, on dit, vous les montrez, donc vous donnez des idées aux autres. C'est pas mal comme notion d'information, liberté de la presse, tout ça, parce que ça attaque aussi ce droit-là. C'est-à-dire, il faut pas révéler les failles de sécurité des systèmes, notamment de l'énergie. Donc c'est à la fois triste parce qu'ils ont quand même bien morflé, mais quelque part le tribunal reconnaît le bien fondé des motivations de Greenpeace en disant vous donnez l'exemple. Du coup ils sont un peu incohérents dans leur rendu. Voilà. En tout cas normalement l'avocate devrait se pouvoir en cassation. On verra ce qui se passe. C'est quand même pas très bon. Et regardez, je vais vous donner un autre exemple. Les gens qui habitent près de Golfech. Golfech, c'est une centrale nucléaire, une autre, hein, qui est dans le Tarn-et-Garonne. Jamais aucun habitant autour de Golfech n'a eu droit à ces 50 000 euros de préjudice moral. Pourtant, ils ont peur tous les jours. 33 incidents ont été déclarés l'année dernière. plus de 1 par mois. Enfin, en moyenne, 1 par mois, on va dire. Enfin non, ça fait 3 par mois dans cette région. Incident. Alors, le directeur, lui dit, il admet que c'est trop. Et qu'ils vont faire des trucs sur la sécurité. Mais vous imaginez, il y a eu des feux, il y a tout eu dans cette centrale. Et le dernier en date, et ben pour cette année, ça y est, yes, le premier incident a eu lieu le 9 janvier dans cette centrale nucléaire de Golfech. Bon, c'est juste pour rappeler que le nucléaire, c'est quand même un truc super dangereux, qu'il y a une égalité de traitement par la justice, qu'on vit tous à côté d'un truc qui peut péter, et que c'est quand même... tout sauf rassurant. Mais bon, tout va bien. La justice, main dans la main avec le gouvernement et avec EDF, continue l'esbrouf sur le nucléaire. Et puis, on a des exemples qui montrent que tout est possible sans nucléaire. Et on va parler du Danemark. Parce que le Danemark, c'est un peu la classe des fois. Hein, sur plein de sujets.
Mais que des fois. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais
sur plein de sujets,
on idéalise.
Ah non, mais il y a des trucs pas bien. Sur l'égalité homme-femme, par exemple, ils avaient pris quand même beaucoup d'avance sur la France. Sur le droit des homos, ils avaient pris aussi pas mal d'avance, hein. Quand même, on peut le dire. Alors il y a peut-être des contre-exemples sur le Danemark.
Ils ont des bons fachos racistes. Hein,
ouais, alors ça c'est les individus, on en a aussi pas mal chez nous, voire pas très loin dans les deux cas.
C'est juste à l'histoire d'année du débat.
Ouais, non mais t'as raison, voilà. T'as raison. Alors, je vais parler du bilan énergétique du réseau d'énergie danois de fabrication et de l'électricité. En fait, c'est le réseau de transport de l'électricité, l'équivalent d'Enedis en France, qui s'appelle Energinet, qui très tôt dans l'année, lui, dès le 2 janvier, fait le bilan de l'année d'avant. Parce que finalement, dès le 2 janvier, ils ont les chiffres, hein. De toute façon, c'est tout rentré dans les ordinateurs, dans les bases de données, ils n'ont plus qu'à sortir un truc, un tableur qui leur sort le calcul, et on a gagné. Et donc, ils sont plutôt pas mal, hein, quand même, les Danois, au niveau énergie électrique. Alors, c'est le champion d'Europe, hein, en matière de production d'électricité par les éoliennes. Le dernier record datait de 2017. L'année dernière, 2018, c'était passé à 41%. Aujourd'hui, ils sont à 47%. Enfin, l'année dernière, du coup, 47% de l'électricité fabriquée et donc consommée au Danemark est issue des éoliennes. Leur objectif, c'est d'atteindre les 50% très bientôt, mais ils en sont pas loin. Plus, si on rajoute 3% de l'électricité fabriquée par les réseaux photovoltaïques, le pays est déjà à la moitié de l'électricité produite par des renouvelables. Et on a tous les nucléophiles en France, entre leurs discours anti-éoliennes, tout ça, qui nous disent « mais c'est pas possible, un réseau électrique ne peut pas être stable s'il y a plus de 20% d'énergie renouvelable, parce que ces énergies renouvelables sont dites intermittentes ». Alors c'est totalement faux, elles sont certes intermittentes, mais prévisibles. On sait d'avance, à un mois, une semaine, une journée, une heure, il y a des calculs, hein, il y a un service spécial, hein, chez RDF qui fait ça, qui fait de la prévision avec toutes ces échelles de temps. Et qui savent à tout moment, quasiment, combien une éolienne va produire, parce que la météo est connue, parce que, etc. En plus, quand on regarde les graphiques, en général, quand on a du vent, on n'a pas de soleil, même si aujourd'hui c'est un cas inverse à Lyon. Donc ça, les énergies éoliennes, quand elles sont bien installées, elles se compensent pas mal les unes des autres. Et puis, on peut stocker le Danemark arrive à stocker l'énergie électrique, et pourtant, ils ont un handicap énorme. C'est un pays plat. Ils ont un autre handicap, ils n'ont pas de soleil. C'est un pays où il pleut pas mal. Et ben avec tout ça, ils s'en sortent mieux que les autres. Alors, pour stocker l'énergie électrique, comme ils peuvent pas le stocker chez eux, parce qu'ils n'ont pas de montagne, parce que le meilleur moyen de stocker l'énergie électrique, hein, c'est pas les batteries, ça c'est n'importe quoi, il faut stocker dans des steppes, ce qu'on appelle des steppes, des installations de pompage turbinage. On a le barrage de Grand-Maison en France, on en a plusieurs, hein. On n'en construit pas en France, alors que les autres pays en construisent, et eux, ils ont une ligne avec la Suède, et je crois un autre pays autour, où là-bas il y a des montagnes un petit peu, où ils peuvent stocker en hauteur l'énergie électrique sous forme d'énergie potentielle mécanique mise dans de l'eau qu'on monte, et quand on redescend l'eau, on refabrique l'électricité, c'est le meilleur moyen de stocker l'énergie électrique en grande échelle. Donc ils y arrivent très bien. Et en plus, ils font encore plus fort que ça, puisqu'il y a 25% de l'électricité qui est produite par de la biomasse, qui est donc elle aussi renouvelable, puisque c'est de la biomasse dans laquelle ils replantent les plantes, etc. Donc là, on bat tous les records au Danemark. Ça démontre que tout ce qu'on entend aujourd'hui chez nous sur les anti-éoliens, sur les pro-nucléaires, tout ça, c'est que du mensonge. Leur objectif, hein, c'est d'arriver à 100%. Et à la vitesse où ils vont, ben ils vont y arriver bien avant les objectifs, les dates qu'ils avaient pu se fixer. Alors pour l'instant, ils ont encore 28% d'hydrocarbures hein, qui fournit de l'électricité dans le mix énergétique. C'est en baisse constante. Hein. En 2010, c'était 66% de l'électricité fournie par du non renouvelable et des hydrocarbures notamment. Aujourd'hui, ils en sont à 28%. Ils ont divisé par deux. Donc ça diminue encore. Et voilà, l'objectif, c'est qu'ils sortent totalement du charbon d'ici 10 ans, qui est plus rien du tout, et qu'après, voilà, ils se donnent 2050, 100% renouvelable. Je rappelle que la France, 2050, c'est 25% renouvelable. Le ridicule ne tue pas. Et puis, pour terminer, une petite info brève, parce que je vais pas détailler, parce que c'est un peu compliqué, mais c'est une bonne nouvelle, on sait que la France fait pression depuis des années, et notamment ces derniers temps, sur l'Europe, pour faire reconnaître l'énergie nucléaire comme une énergie décarbonée, et donc à mettre en œuvre dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique. Il y a eu plusieurs réunions de différentes commissions. Et là, c'est Elisa Ferreira, qui est élue socialiste du Portugal, qui s'occupe du fonds de transition équitable de l'Union européenne. Donc c'est un fonds qui est abreuvé, alors qui est pas très haut en argent, hein, puisqu'il y a 7,5 milliards d'euros. Alors vous me direz, c'est beaucoup. Mais non, quand on veut aider des pays à faire de la transition énergétique, 7,5 milliards, c'est pas beaucoup. Elle dit qu'ils vont arriver à mobiliser plus pour atteindre les 100 milliards d'ici 2021-2027. C'est pas beaucoup, parce que quand on prend des exemples comme la Pologne, elle va avoir droit à ce fonds, pas totalement, parce qu'elle refuse de sortir du charbon, etc. Mais c'est en aidant ces pays-là, notamment la Pologne qui a du charbon sur son territoire, il va falloir les aider à sortir du charbon. Et ben, ce fonds de transition équitable a exclu le nucléaire comme énergie permettant une transition juste vers une énergie électrique décarbonée. Donc ça nous fait plaisir, parce qu'on sait que Macron et tous ses amis nucléophiles se battent, notamment au niveau de l'Europe, pour... Il n'y a pas beaucoup de pays hein, qui se battent au niveau de l'Europe qui sont pro-nucléaires, mais la France en fait partie. Et là, bon voilà, ils sont exclus, ça nous fait plaisir, c'est une bonne nouvelle, parce que c'était pas gagné. Il y a d'autres endroits où c'est plus compliqué au niveau de l'Europe, à cause de la France et ou deux autres pays qui défendent le nucléaire jusqu'au bout, alors que ces gens-là n'ont jamais proposé une seule solution viable scientifiquement sur la gestion des déchets nucléaires, puisque je vous rappelle, hein, les déchets qui sont dangereux sur une centaine de milliers d'années sont contenus dans des fûts vitrifiés, c'est un verre spécial qui garantit 150 ans. Voilà, vous avez une inéquation, il y a une incohérence. Bon, a priori, Macron et ses amis ont pas dû faire beaucoup d'études scientifiques, puisqu'ils ont jamais relevé cette incohérence, bizarrement.
Écoute, je propose de finir sur deux écolos qui vont certainement sauver le climat. Il s'agit de deux anciens ministres, donnons de leurs nouvelles.
T'as connu des ministres écolos, toi? Vas-y qu'on se marre.
Alors, Gérard, notre colon est nous.
Ah mais il est écolo, Gérard, c'est vrai maintenant.
Ah bah, je te rappelle qu'un de ses trucs hein, là, pour la campagne, c'est l'alliance de l'écologie et de l'économie.
Il nous a déjà fait le coup plein de fois sur les campagnes à Lyon, il n'a jamais rien fait.
Pour te dire à quel point, parce qu'il a plein de projets, hein. Alors il veut mettre plus de transport, il y a le T6, hein, il veut faire un RER, il y a le métro, je ne sais pas comment le nouveau là qui va s'appeler, ABCD 1E. Non, je sais pas. Les contournements, tout ça.
Attends, mais il est pour l'anneau des sciences.
Il veut, et donc il est pour l'anneau des sciences.
Qui a une aberration écologique.
Et il est allé causer, parce que monsieur Gégé est en campagne, devant la Fédération du bâtiment et des travaux publics du Rhône. On comprend mieux ses grands travaux.
Ah bah oui.
Mais au nom de l'écologie.
Ah oui.
Bon, l'anneau des sciences, c'est un peu bancal comme argument.
Ouais.
Mais en tout cas, pour le reste, hein, quand même, il dit qu'il veut faire plein de choses. Alors bon. Gégé l'écolo est donc allé rencontrer des entrepreneurs qui vont pouvoir bâtir si Gégé il gagne, parce que Gégé il a plein de projets. Et apparemment ils étaient mais ravis de la présence de Gérard Collomb. Alors j'ai lu le progrès.fr et dans un article qui concerne
un site de référence
de sujet, je vais donc citer la référence du Progrès qui conclut un peu ce papier. Gérard Collomb a dit, c'est dans le Progrès, je crois donc. Comme je suis un peu tricard à la métropole en ce moment, j'ai repris la signature des permis de construire, donc pour l'île de Lyon. Comme ça, je peux revoir les promoteurs.
Oh, ses amis, voilà. Financiers du bâtiment.
Le mec te raconte vraiment la vérité. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vais faire bosser des gens. Voilà, là, on va faire de l'économie sans l'écologie, mais on va faire de l'économie. Et puis l'autre.
Attends, je voulais dire un truc. Si jamais, parce qu'on n'a jamais pris en flagrant délit Gérard Collomb d'être écolo. Si vous avez une photo montrant Gérard Collomb en train de cultiver des légumes, en train de se déplacer à vélo, alors non seulement c'est collecteur, mais envoyez-la à Radio Canu. Parce que
ça
là,
doit exister, il a bien dû non faire semblant, non quoi,
ah oui, faire vélo, semblant, il a dû faire ça. Oui, il a dû faire ça. Et encore, le vélo, je suis même pas sûr parce que c'était pas lui. C'était, je sais plus qui c'était, Touraine.
Ouais, alors moi après je dis quand même le grand gagnant ou la grande gagnante de ce jeu concours que nous lançons donc ce jeudi 16 janvier 2020, ça sera si vous avez une photo de GG en espadrille. Voilà.
Aussi.
Et là,
mais bon,
l'écologie
bah, ouais, parce que, ouais,
alors, deuxième ex-ministre écolo, qui est aussi dans la presse cette semaine, c'est ta grande amie Ségolène Royal, qui.
Arrête, je vais m'énerver.
Alors, je vous rappelle que.
Quel escroc.
Madame Royal a quelques soucis, puisque hier, on a appris qu'il y a une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier, c'est pas rien quand même, contre Madame Royal, ex-ministre hein, quand même. Vous devinez de quoi, évidemment, elle était ministre, hein, vous vous souvenez un petit peu, elle était.
Ouais, elle faisait semblant de. Ouais. Ouais. Bon, bref.
Donc c'est parce qu'en fait.
Elle abusait.
Elle était ambassadrice des pôles. Déjà, on se demande comment. Bon,
ça ouais, sert à ça, rien. Ouais.
Elle doit vraiment faire chier le monde quand même pour arriver à se retrouver des postes comme ça. En tout cas, elle avait une enveloppe de frais pour faire vivre son poste d'ambassadrice de 100 000 balles quand même. Je veux dire, je ne sais pas combien.
100 000 euros, ouais, c'est
bien. Il y a d'associations qui, avec 100 000 balles, métologent plein de gens, luttent contre les violences faites aux femmes, dynamisent des secteurs du spectacle.
Pas, pour les violences faites aux femmes, il faut beaucoup plus.
Non, mais sur des régions, je parle. Bah, oui. Je ne sais pas, mais franchement, je pense que le planning, tu lui donnes 100 000 boules, il est content. Hein.
Mais tout le monde est content.
Hein. Donc t'as quand même une femme qui se retrouve avec 100 000 balles. Enfin je sais pas, moi déjà ça me dépasse un peu. Donc elle avait été mise en cause par Radio France dans un gros dossier avec tout plein d'enquêtes, tout plein de sons et tout plein de papiers. Elle avait pour réponse dit que c'était alors je retraduis un peu globalement, mais globalement, enfin elle a dit. D'ailleurs dans l'interview c'était assez clair hein, et dans les entretiens qu'elle a donné et ses communiqués, les journalistes c'est donc des menteurs.
Ouais.
C'est des menteurs complotistes. C'est des menteurs complotistes incompétents et c'est des menteurs complotistes incompétents qui la diffament. Elle avait dit tout ça quand même avec plusieurs frames et sur la diffamation, elle avait beaucoup beaucoup insisté, sur l'incompétence beaucoup insisté et sur les mensonges beaucoup insisté.
Et
alors
du coup,
que,
si le parquet poursuit, c'est qu'ils ont des éléments à charge. Hein.
Pareil qu'ils veulent vérifier ce que la presse
ouais,
a raconté. Enfin bon. Donc, on a aussi appris que elle va être licenciée a priori de son poste.
Ouais, alors ça, c'est pour une autre raison.
Ambassadrice, c'est une
le licenciement, c'est parce qu'elle s'est mise à dos Macron, parce qu'elle a critiqué le gouvernement, qui se disent...
Voilà.
Alors donc là, c'est quelque part... je sais pas si c'est elle l'a cherché ou pas. Ils font bien ce qu'ils veulent, c'est eux les patrons. Voilà, Macron va pas lui demander d'être ouvert d'esprit, de respecter les autres, et d'avoir quelqu'un près de lui qui dit du mal de lui. Hein. Il est autoritaire partout, donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas autoritaire, avec un poste inutile et quelqu'un qui en plus semble avoir un petit peu triché. Voilà, du coup, elle va sauter. On n'implorera pas.
Elle avait été quand même pas mal critiquée hein, pour avoir évité de participer à des réunions internationales pour aller, par exemple, faire du chien de traîneau, parce que c'était vachement plus cool, parce qu'il y avait des photographes qui étaient là, un photographe, si je me souviens bien, et que donc, comme ça, elle se pouvait se faire photographier avec sa doudoune au milieu de la neige et que c'était super classe. Alors qu'a priori, en plus, c'était pas la saison, que tout se passait mal et que elle faisait chier le monde un peu, hein, voilà.
Non, mais c'est une apparatchik du système, comme tous ces grands personnages
mais en fait,
politiques. Et voilà,
pas,
elle survit en ayant des trucs comme ça. C'est...
Pourquoi ils montent pas un truc avec Gérard Collomb, en fait? Ils s'entendraient super bien, en fait, je pense.
Tu crois?
Ouais. Bon, enfin, voilà, c'était pour finir sur une petite note écolo, parce qu'on n'en a jamais trop de l'écologie. Hein.
Ouais, alors si on associe écolo à Ségolène Royal, on n'a pas gagné, quand même.
Bon, avec Gérard, excuse-moi.
Et avec Gérard, c'est pareil, même combat.
On se retrouve, en tout cas, la semaine prochaine.
Ouais.
On va vous laisser avec la petite cuillère qui prendra la suite dans quelques secondes, minutes. Et peut-être un peu de musique en attendant que... Non, c'est le générique
hein. Ouais, non, mais il reste 30 secondes, donc on va pouvoir meubler pendant 30 secondes. On n'a pas fait d'agenda, parce qu'on n'a pas regardé, on a un seul agenda. Voilà.
Non, on va pas meubler, en fait. Hein.
Non, on meuble pas, on dit au revoir.
On dit au revoir. Allez, ciao.
Bye bye.